1. Docteur Tedril de Brent, OT Histoire, Li. Et Théologie, Conférence 17. Copyright Symbole Copyright 2020, Tedril de Brent. Il s'agit du docteur Tedril de Brent dans son ouvrage Histoire, Littérature et Théologie de l'Ancien Testament. Cours, leçon 17 sur le livre du Deutéronome, les institutions d'Israël et les différents. Compréhension de la notion de droit. 10 commandements, grand spam LC00209. Nous allons essayer de parcourir la majeure partie du livre du Deutéronome aujourd'hui. Bien que je ne pourrai probablement pas tout surmonter. Il va y avoir des choses difficiles. Expliquer aujourd'hui, donc en ce qui concerne les choses cognatives, c'est probablement le jour le plus difficile que nous aurons à voir dans le cours. C'est quelque chose d'assez lourd. Nous traiterons de la loi et de la grâce et différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament et des choses comme ça. Il y aura donc du matériel assez intéressant. Avant d'arriver au contenu lourd, faisons quelque chose plus légère. Truc. Tout d'abord, je vais vous enseigner les 10 commandements. Les 10 commandements en sont le fondement. C'est ce qu'on appelle les stipulations générales. Ils sont en quelque sorte fondamentaux à tout le reste de la loi. J'ai eu du mal à mémoriser le 10, c'est un peu comme le 12. Apôtre, vous en perdez toujours un, vous devez les parcourir plusieurs fois. Donc j'ai décidé de faire un acrostiche loufoque ici pour ça. Voici donc les 10 commandements. Big les span, d'accord. Maintenant, de ma génération, savez-vous quoi? C'est du spam. Les gens ne savent probablement pas ce qu'est le spam. Spam, ils ont mis ce truc dans une canette. Et ça reste bon pendant 30 ans. En fait, vous êtes probablement en train de manger le spam qu'ils construit quand j'étais au lycée. Personne ne sait vraiment ce qu'est le spam, mais c'est censé être un substitut de viande. D'accord, donc gros spam LC. C'est comme ça que nous ferons le 10. Commandement. Pas de blasphème 2:1-03:32. Le big, ici, sera entièrement consacré à Dieu. Le premier sera, pas de blasphème. Non blasphème. Ne prenez pas le nom du Seigneur votre Dieu de manière légère ou triviale. Être. Honnêtement avec toi, je ne sais pas quoi faire de moi-même dans ta génération. J'entends les étudiants. Même sur le campus de Gordon et mon fils vient de ramener à la maison une petite amie qu'il avait, et machine translated by Google. 2. Tous les autres mots qui sortaient de sa bouche étaient, oh, mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Plutôt, en disant un point d'exclamation, les gens disent, oh mon Dieu. Et ce que c'est prendre le nom de Dieu d'une manière légère et triviale. Laissez-moi juste vous illustrer, un professeur se lève devant un lycée. Classe d'école dans le Massachusetts, vous savez dans le Massachusetts comment sont les écoles ici, et un. Le professeur se lève et tout d'un coup, le professeur se cogne la jambe contre le bureau et elle dit, oh mon Dieu. D'accord, est-ce autorisé dans une école du Massachusetts? Bien sûr, ce serait le cas. La même prof se lève et elle fait comme ça en croisant les mains et en baissant la tête. Oh mon Dieu! Est-ce autorisé ou interdit? Non, elle perdrait son emploi. Donc je suis en disant que c'est juste vraiment intéressant. Je pense que tu dois penser à utiliser le nom de Dieu et comment vous le faites? Que vous l'utilisiez de manière légère et triviale. Il dit que je ne veux pas de mon nom utilisé de manière légère et triviale. Pas de blasphème. Pas d'idoles et autres dieux 3:3-4:37. Pas d'idole. Aucune idole ne serait le « je » dans « Big ». Encore une fois, nous n'adorons pas Béol, Achéra et Dagon. Nous n'avons pas d'idole de pierre. Certains diraient que nous avons des idoles de la voiture, de l'argent, des maisons et des choses comme ça et vous pourriez justifier de dire ces choses sont des idoles. Je pense aussi aux idoles que nous créons dans notre esprit. Lorsque nous conceptualisons Dieu d'une manière bien inférieure à ce qu'il est réellement, tu dois être veillé à vous familiariser avec votre propre façon de conceptualiser Dieu. À la fin du livre de 1 Jean, il nous prévient. Méfiez-vous des idoles. Je pense donc que c'est une chose vraiment valable. En fait, j'ai dû affronter mes propres idoles et réaliser ma propre idolâtrie. Le 21e siècle. Nous ne pratiquons plus le culte de Béol, mais nous pratiquons notre propre type de 21e idole du siècle. Ainsi, il ne devrait y avoir ni blasphème, ni idole, ni autre dieu devant moi. Donc, il ne devrait y avoir aucun autre dieu devant moi. Ces trois-là. Pas de blasphème, pas d'idoles et non d'autres dieux. Tout cela est centré sur Dieu. Spam LC 4, 388, 07. Maintenant, le LC ne ment pas. C'est assez évident. Pas de mensonge. Non c'est, il n'y a pas de capitalisme. Je veux dire, pas de convoitise. Notre culture est elle construite sur la convoitise. Donc il ne devrait pas y avoir de mensonge, non. Convoiter, ne pas convoiter la maison de votre prochain. Ne convoitez pas la femme de votre voisin. Ne le faites pas. Machine translated by Google. 3. Convoitez les biens de votre prochain, et donc pas de convoitise. C'est un vrai problème en Amérique où tout le monde convoite les affaires de tout le monde. C'est en partie ainsi que notre pays est construit. Donc, il ne devrait y avoir ni mensonge, ni convoitise, ni vol. Les gens ont droit à des renseignements personnels. Propriété. C'est comme ça qu'on le dirait dans un sens positif. Les gens ont le droit de bien personnel. Vous ne devriez pas voler leurs affaires. Et ce que ton colocataire tous les voler tes affaires. Attention, voler n'est pas bon. C'est un péché contre Dieu. Pas de mensonge, pas de convoitise, pas de vol. Ce qu'aucun vol ne fait, c'est dire qu'une personne a le droit à la propriété personnelle. Laisse-moi juste prendre ça, tu ne devrais pas mentir, ce qui veut dire, comment voudriez-vous mettre cela dans un sens positif? Tu devrais dire la vérité. Alors tu devrais être un orateur de vérité. Vous ne devriez pas mentir, vous devriez parler de la vérité. Tu ne devrais pas convoiter les affaires des autres pour les obtenir vous-même. Au lieu de cela, vous devriez être généreux. Et ainsi, vous voyez comment chacun de ces éléments peut être transformé et présenté de manière positive. Tu ne devrais pas voler des choses, mais vous devriez plutôt donner généreusement aux autres. Maintenant, parents, honorez votre père et votre mère, afin que vos jours soient longs. La terre. C'est donc celui-ci qui s'occupe des parents. C'est le seul point positif. Tous les d'autres ne mentent pas, ne volent pas et ne font pas ceci ou cela. C'est positif. Honore ton père et ta mère. C'est une grande chose. Vous savez, cela revient à la question. Que dois-je faire quand mon père et ma mère ne sont pas honorables? Tu sais, ma mère était toxicomane et mon père m'a abandonné. Cela devient une situation vraiment difficile, comment honorez-vous les parents? C'est parfois une situation délicate. Pas d'adultère. Ah et pour adultère. Pas d'adultère. Jésus en parle dans le Nouveau Testament. Jésus dit, vous avez entendu dire autrefois, tu ne commettras pas adultère. Mais que dit Jésus? Mais je vous le dis, celui qui regarde les femmes avec convoitise dans son cœur a déjà commis l'adultère dans son cœur. Jésus prend ses commandements et les pousse dans le cœur. Il ne dit pas, oh, je n'ai jamais. J'ai commis un adultère parce que je n'ai jamais été marié. Jésus dit que si tu as du désir, tu ont déjà commis l'adultère. À propos, dans notre culture, applaudissons-nous réellement. Adultère. La moitié de nos films parlent-ils de situations adultères? Autrefois, ils utilisaient porter une lettre rouge dessus. Maintenant, tu es un héros dans notre culture. Dans notre culture, les célébrités. Machine translated by Google. 4. Retourner les femmes et retourner les maris et c'est presque applaudi. Donc, l'adultère. Être. Faites attention à l'adultère. Meurtre contre meurtre 8, 08 11 01. Pas de meurtre. Aucun meurtre n'est le M. Maintenant, remarquez. Et ce que cette Bible dit, tu devras. Tu ne tueras pas, ou dit-il, tu ne commettras pas de meurtre. Il est écrit, pas de meurtre. Y a-t-il un différence entre tuer et assassiner? Les Israélites ont-ils tué des gens pendant la guerre? Étaient-ils violés ce commandement? Non, Dieu leur a dit, dans certains cas, de sortir pour aller guerre. Un autre cas que j'utiliserai, comme moi, j'ai peur de descendre Grapevine Road. 1. L'enfant fait du vélo. Ses enfants font du vélo maintenant, et tout d'un coup, le gamin fait un écart devant ma voiture et j'écrase l'enfant et je le tue. Question, et je assassiné l'enfant. Maintenant, l'enfant est il mort. J'ai roulé sur lui avec ma voiture. Alors je l'ai tué mais je l'ai fait. Je le tue. Le meurtre implique la haine ou la méchanceté et la prévoyance. Ces deux mots sont clé, malice et prévoyance. En d'autres termes, il n'y avait aucune méchanceté dans mon cœur envers ce gamin. Il s'est justement écarté devant moi. Je ne pouvais pas m'arrêter. Donc pour le meurtre. La clé est la malveillance et la prévoyance. En d'autres termes, si vous aviez prévu à l'avance de tuer un personne, et donc la méchanceté et la prévoyance sont des meurtres. Vous devez faire une distinction entre meurtre et meurtre. D'ailleurs, même nos lois américaines font elles une distinction entre meurtre et meurtre. Oui. Avons-nous différents degrés de meurtre et différents degrés de mise à mort? Je tiens à le dire respectueusement pour l'honneur des parents. Supposons que ma belle-mère a la maladie d'Alzheimer. Bon ou mauvais? Mauvais. Vraiment mauvais. Supposons qu'elle est dans la voiture et j'ai commencé à conduire la voiture. Pourrait-elle tuer quelqu'un? Pourrait-elle se suicider? Supposons qu'elle appuie sur l'accélérateur au lieu du frein et qu'elle le rate parce que la coordination a disparu. Pourrait-elle réellement foncer sur quelqu'un et le tuer? Aurait-elle être considérée comme un meurtrier? Au fait, devrait-elle conduire une voiture? Non, donc c'est une mauvaise illustration. Ce que je voulais dire c'est, supposons qu'une personne se saoule et s'en aille dehors, conduit et ils conduisent en état d'ébriété et ils tuent quelqu'un. Sont-ils un peu plus responsables que ma belle-mère qui a la maladie d'Alzheimer? Tu sais ce que je dis. Elle est complètement folle. Maintenant, elle n'aurait pas dû conduire la voiture au début. Machine translated by Google. 5. En droit, mais une personne ivre, est-elle plus responsable? Pourquoi? Il y a une négligence. Là est la responsabilité. L'ont-ils fait avec méchanceté et prévoyance? Non, le problème. Il n'y avait aucune pensée. Il existe différents degrés de meurtre et de meurtre. Donc là, ne devrait pas être un meurtre. Le meurtre est commis avec méchanceté et prévoyance. Nous devrions plutôt affirmer. Vie. Sabbat 11, 0211, 39. Et enfin, le dernier est le, S, c'est accent grave dire se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Le sabbat fait donc partie des 10 commandements. 10 commandements, Big LC. Spam. Pouvez-vous y réfléchir de cette façon? Oui monsieur, Peter. Étudiant, que est-ce que le LC? Real de Brent, LC, Bibliothèque du Congrès. Oh, oui, ce sont juste des spams LC Big LC. Mentir et convoiter. Chim, Deutérium 6, 4 et suivant 11, 4013, 26. Disposition générale et je veux donc que vous connaissiez les 10 commandements. Un autre. La stipulation générale est ce qu'on appelle le Chim. Tous les juifs du monde, je le jure, le savent. Sévère. C'est le Jean 3.16 si vous êtes juif. Deutéronome 6.4, est appelez-le. Chim, parce que le premier mot est Chim qui signifie « entendre ». Écoute, ô Israël, Chim. Israël. Est-ce que certains d'entre vous savent que si vous vous dirigez vers un montant de porte par ici, demandez à l'un d'entre vous. Je suis allé dans une maison juive et quand tu entres dans le montant de la porte, il y a un petit « W » sur la porte. Et vous les voyez aller comme ceci et comme cela. Est-ce que quelqu'un va déjà dans une maison juive et vous les voyez toucher le montant de la porte où se trouve ce qui ressemble à un « W ». La lettre « W » dans l'hébreu et ce son « SH ». Quand vous entrerez dans une maison juive, ils en auront un peu, ceci. Lettre « CH ». Ce sera sur la porte, et c'est pour leur rappeler quand ils entrent dans la maison de. Tu te souviens de quoi? Chim Israël. Écoute, Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. Donc, ils iront le toucher, leur embrasseront les mains comme ça et tu les verras quand ils entreront dans le maison. C'est juste une autre façon de se souvenir des Écritures. Alors, écoute, ô Israël, Yahvé est notre Dieu, au fait, quel est le prochain verset après cela? Écoute, Israël, Yahvé est notre Dieu. Yahvé est un et tu le feras, quoi? Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et esprit, ainsi continue tes il. C'est le grand commandement, d'aimer l'Éternel de tout votre cœur. Cela fait donc partie du Chim. Machine Translated by Google. 6. Institution d'Israël 13, 2714, 30. Maintenant, comme il existe des 10 commandements très larges, des lois fondamentales pour la société et pour le christianisme et le judaïsme, il y a une énorme transition qui se produit là où se trouve Moïse. Remettant les rênes à Josué, il va y avoir une grande transition. Alors que Moïse laisse aller, ce qu'il fait, c'est mettre en place les institutions. Moïse est ici, sur le mont Nebo. Ils vont descendre, traverser le Jourdain jusqu'à Jéricho. Moïse ne peut pas traverser le Jourdain, donc il est sur le mont Nebo et il regarde vers Israël. Ce qu'il fait, c'est qu'il met en place les institutions. En d'autres termes, c'est presque comme ce que nous appelons le Constitution. Moïse dit que lorsque vous entrez dans le pays, ce sont les institutions qui vont diriger votre pays. Moïse établit donc ses institutions dans la Mosaïque Loi. Prophète 14, 3120, 56. La première institution qu'il met en place sont les prophètes. Au chapitre 13, nous voyons ce que Moïse a à dire sur les prophètes. Il dit, « Si un prophète ou quelqu'un qui prédit par des rêves apparaît parmi vous et vous annonce un signe ou un prodige miraculeux, et si le signe ou le je me demande ce qu'il a dit. Alors le gars vient vers toi et il t'annonce qu'il a fait un rêve et puis il annonce un miracle et le miracle en fait arrive, ce gars est-il un vrai ou un faux prophète? Vous ne savez toujours pas, n'est-ce pas? Est-il possible? Si ce type fait un signe ou un prodige miraculeux et que ce signe ou ce prodige miraculeux prend lieu. Et il dit, allons à la recherche d'autres dieux. Est-il un vrai ou un faux prophète? C'est un faux prophète parce que ce qu'il a dit contredit l'Écriture. Ce qu'il dit contredit celui de Dieu. Révélation précédente lorsqu'il dit de ne pas poursuivre d'autres dieux. Qu'on fait les 10. Les commandements disent. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Alors tu connais le gars. Est un faux prophète. Que se passe-t-il avec les faux prophètes? Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est vous testant pour savoir si vous le suivrez de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous devez suivre, et c'est lui que vous devez révérer ou craindre. Ce prophète ou le rêveur doit être mis à mort. Moïse les avertit qu'il y aurait des prophètes à l'avenir, mais il les avertit que certains d'entre eux seraient de faux prophètes. Quelle est la différence entre un faux prophète et un vrai prophète? Combien de faux? Machine translated by Google. 7. Des prophètes à tout vrai prophète. Israël avait-il beaucoup de vrais prophètes et peu de faux prophètes ou avait-il une tonne de faux prophètes et très peu de vrais prophètes? Fait. Quelqu'un se souvient, il dit Élie et des prophètes de Béol sur le mont Carmel. Il y en a 450. Prophètes de Béol, il y a un Élie contre les 450 prophètes de Béol. Voici comment ça se passe. En Israël. Si vous deviez résumer, quel est le message du vrai prophète? Le faux. Le prophète était censé être quoi? Tué. Qu'a fait Israël au faux prophète? Il applaudit les faux prophètes. Qui ont-ils tué? Les vrais prophètes. Quel était le message des vrais prophètes, si je pouvais résumer le message du vrai prophète en un mot? C'est vraiment grossier, mais si je pouvais le résumer en un mot, ce serait quoi? Mot. Chuvez, repentez-vous. Alors le vrai prophète se lève, dit-il, repentez-vous, auprès du peuple. Quoi? Est-ce que les gens le font? Ils l'ont assommé. Voilà donc le vrai prophète. Maintenant, le faux prophète, il y a beaucoup de faux prophètes et que font les faux? Disent les prophètes selon le livre de Jérémie. C'est bon. Paix, amour, harmonie. Paix. Alors Jérémie dit que les faux prophètes disent, paix, paix quand elle existe, quoi? Pas de paix. Ceux qui proclament toujours la paix et l'amour et tout ça. Chose merveilleuse. Que dit Jérémie? Ces types sont de faux prophètes. La vérité. Le prophète dit, repentez-vous. Donc ce que je remarque c'est ce contraste entre vrai et faux. Prophète. Israël a beaucoup de faux prophètes. Ils applaudirent les faux prophètes. La vérité. Prophètes, ils ont fini par en tuer beaucoup. Quelqu'un se souvient-il de l'histoire d'Isaïe? Isaïe fuyait, c'est la rumeur, ce n'est pas dans la Bible, c'est ce que dit la légende / tradition, mais une partie vient du livre des Hébreux, Isaïe fuyait le roi Manassé qui était un homme vraiment méchant et mauvais. Roi et ce type est méchant. Alors Isaïe s'enfuit et se cache dans un arbre. Isaïe se cache dans le coffre d'un arbre. Et ce qui arrive, c'est que les hommes de Manassé le rattrapent. Tu vois, il est dans un arbre. Donc, que font-ils? Ils prennent une scie et coupent l'arbre en deux. Le livre des Hébreux fait référence à certains d'entre eux qui ont été sciés, c'est Isaïe qui a écrit le grand livre de Isaïe. Sortons de là. Maintenant, l'autre passage que Moïse évoque à propos du prophète est celui-ci, et c'est un bon passage aussi, au chapitre 18. Moïse explique ce qu'est un prophète et il dit au chapitre. Machine translated by Google. 8. 18 jusqu'au verset 17 où il est dit, les nations qui vous déposséderont écoutent ceux qui pratiquent la sorcellerie et la divination, mais quant à vous, l'Éternel, votre Dieu, ne vous a pas permis. Vous ne faites pas de sorcier, vous ne faites pas de divination. L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi Moïse. Moïse dit, Dieu suscitera un prophète comme moi. Toi. Il faudra l'écouter pour ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Puis le vers 18, je susciterai un prophète comme toi Moïse parmi tous tes frères. Et je le ferai. Mets mes paroles dans sa bouche. Que devait faire le prophète? Le prophète avait la parole de Dieu. Mettre dans sa bouche. Alors qu'a dit le prophète? Ainsi parle le Seigneur. C'est le manière du roi Jacques de le dire, ainsi parle le Seigneur, parce que Dieu a mis ses paroles dans le bouche du prophète. Les prophètes ont parlé pour Dieu. C'est ce que veut dire prophémie, ils parlent pour Dieu. Ils parlent à la place de Dieu. Moïse dit, Dieu va susciter un prophète comme moi. Quand Jésus arrive, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que les Juifs ont demandé à Jésus? Ils dirent à Jésus, Jésus, qui es-tu? Es-tu le prophète? Jean 1.21-25. Que est-ce que le prophète? Qui est le prophète? Le prophète sort d'ici de Deutéronome chapitre 18. Dieu leur a dit qu'il susciterait un prophète comme Moïse. Donc, ils ont demandé à Jésus, es-tu le prophète qui doit venir, ou es-tu le Messie, es-tu le fils de David? Qui es-tu? Es-tu le prophète? Donc ce passage a donné quelque l'attente que les Juifs attendaient la venue du prophète, et que Dieu mettrait ces mots dans sa bouche. Ils ont demandé à Jésus, es-tu le prophète? Jésus a dit quoi? Non. C'est donc là un passage intéressant. Juges 20, 5, 7, 2, 9, 13. Voici la deuxième institution que Moïse établit au chapitre 16, verset 18. C'est la deuxième institution, c'est l'institution du juge. Au fait, Moïse, un prophète. Oui, Moïse était un serviteur du Seigneur. C'est le grand prophète du Vieux Testament. Moïse est parmi les meilleurs et les plus grands. Moïse était illégalement juge. Fait. Quelqu'un se souvient-il dans le livre des Nombres que Dieu lui a enlevé l'esprit et l'a mis sur le 70 ensuite, 70 personnes ont jugé parce que Moïse jugeait tout le peuple et il a juste été alourdi par cela. Machine translated by Google. 9. Il donne donc ici quelques instructions au juge. Il dit que tu vas avoir juges et dans Deutéronome chapitre 16 verset 18, il dit ceci, nommez des juges et des fonctionnaires pour chacune de vos tribus dans chaque ville. La justice devait elle être locale. Chaque ville était avoir un juge. Pourquoi mettriez-vous des juges dans chaque ville? Pour que la justice soit accessible au peuple. Il n'était pas nécessaire de courir 20 miles pour obtenir justice. C'était dans votre propre local. Environ. Alors il dit, mettez un juge dans chaque ville, votre Dieu vous le donne et ils le feront. Jugez les gens équitablement. Ne pervertissez pas la justice et ne faites pas preuve de partialité. N'acceptez pas un pot de vin. Donc, l'essentiel pour le juge était qu'il devait absolument juger équitablement et avec justice. Et négativement, le juge ne devait pas accepter de pot de vin. L'argent et la justice doivent-ils être connectés les uns aux autres? Que dit l'Écriture? L'argent et la justice devraient-ils être connectés ou doivent-ils être déconnectés? Dans notre culture, il était une fois j'enseignais dans la prison de l'État de l'Indiana, qui est un prison à sécurité maximale. Les gars sont assis dans la classe et je suis arrivé et j'ai dit, eh bien, dans l'Amérique, c'est vraiment bien parce qu'en Amérique, on ne peut pas soudoyer les juges. Devinez ce que c'est. Les gars l'ont fait en prison. Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit, vous voulez connaître le juge que vous. Tu veux savoir combien. Maintenant, vous pouvez dire que ces gars sont probablement en prison. Parce qu'ils soudoyaient. Ce que je dis, c'est, l'argent et la justice sont-ils liés en Amérique? L'honnête. La vérité est que laissez-moi vous raconter l'histoire d'un de mes amis. Il était en prison. C'était supposé être, je pense que c'était pendant 15 ans. Il était en prison depuis 8 ans. Il a juré qu'il l'était. Innocent, il a juré absolument qu'il était innocent. Un avocat est alors venu voir ses parents et lui a dit « Pour 20 000 dollars, nous avons un truc technique qui peut faire sortir votre fils de prison. Comment ?» Beaucoup d'entre vous, si vous étiez parents, paieraient 20,00 $ pour sortir votre fils de plusieurs années de vie. Prison. Voudriez-vous payer l'argent? 20 000? Oui. Pensez à ce que vos parents paient. Pour t'envoyer au collège Gordon. Ils s'en sortent à bas prix comme ça. Les parents ont donc payé 20 000 $ et devinez ce qui est arrivé à l'avocat. Il revient vers eux et dit: j'ai presque eu cette affaire mais nous allons dans la mauvaise direction. J'ai trouvé une autre direction. J'ai besoin de 20 000 $ supplémentaires et je peux le faire sortir. Je peux le faire. Ils ont trouvé le deuxième et quand la deuxième fut terminée, il revint une troisième fois et dit: je l'ai. Machine translated by Google. 10. Maintenant, j'ai réussi, 20 000 de plus et je le sortirai de prison. C'était 60 000 $. Total. Question, savez-vous ce que ses parents ont fait? Ils sont sortis et ont sorti un deuxième hypothèque sur leur maison pour obtenir l'argent. Devinez quoi? J'étais au procès. Est-ce qu'il sortait de là en homme libre? Il en est sorti libre. Je suis sérieux, l'avocat l'a fait descendre, 60 000 $ et au troisième essai, le gars a fait rejeter l'affaire et il a été disculpé et il est sorti. S'il avait été un homme pauvre, sa queue serait elle encore en prison. Mais parce que ses parents avaient de l'argent, ont-ils réussi à le faire sortir de prison? L'argent et la justice est-elle connectée? Vous dites bien que ce n'est pas bien. Ça ne devrait pas être comme ça mais c'est juste. C'est comme ça. L'une de mes chansons préférées s'appelle « C'est comme ça ». Vous dites. C'est juste ton ami. C'est mon ami dans la prison d'État de l'Indiana. De ma génération, nous n'avons qu'à dire deux lettres. C'est l'argent et la justice. Connecté, juste deux lettres, J.O. Je suis désolé, c'est ma génération. C'est l'argent et la justice. Connecté. Si vous êtes pauvre, est-ce que votre queue va en prison? Si vous avez de l'argent, est-ce que sortir de prison? Est-ce pathétique? Que se passe-t-il si vous êtes une célébrité? Tu es une célébrité et tu fais quelque chose. Faux. Obtenez-vous un laissez-passer? Oh, je ne le pensais pas vraiment et c'était une erreur. Alors toi. Obtenez, oh, nous ne vous mettons pas vraiment en prison. Nous allons vous donner, voyons, comment appelle-t-on ça? Service public. Nous ne mettrons pas votre queue en prison. Vous obtiendrez un service communautaire. Parce que tu es une célébrité et que tu ne savais pas mieux. Alors on va vous laisser partir. D'accord. Que se passe-t-il si vous êtes vraiment une célébrité et que vous devenez célèbre grâce à ton cas? Une fois que vous deviendrez célèbre, vous aurez accès à certains des meilleurs avocats du pays. Te cherche parce que tu es si célèbre. Pour t'en sortir et ce sont des avocats de la défense. Et ils vous font descendre. Pouvez-vous même, je ferais mieux de ne même pas le dire, pouvez-vous même vous en sortir? Avec meurtre et marche. Oui. Vous écrivez un livre à ce sujet et vous gagnez $1 million. Ou faire un film dessus et ce genre de choses. Y a-t-il quelque chose dans ton instinct qui te dit qu'en Amérique, quelque chose ne va pas avec ce système judiciaire? Ce que je dis, c'est Moïse. Dit que l'argent et la justice ne devraient pas être liés. Il ne devrait y avoir aucun pot de vin. L'argent et la justice ne devraient pas être liés. Il me semble que dans notre culture, l'argent et la justice sont liés et, croyez-moi. Machine translated by Google. 11. Moi, je pourrais rester ici et vous raconter cas après cas en fait, il y en a même eu un. Pour moi et c'était juste en face. Il s'est juste moqué de moi parce qu'il savait que ce n'était pas le cas. J'en ai assez pour arranger les choses parce que ça me coûterait entre 10 000 et 20 000 dollars. C'est vrai. Il savait qu'il avait tort mais il savait que je n'avais pas assez d'argent pour embaucher un avocat alors il en a profité. A-t-il gagné? Oui, c'est comme ça. Alors Moïse dit que l'argent et la justice ne devraient pas être liés. Moïse dit aussi, établissez des villes de refuge. Donc sur la rive est ici en Jordanie. Ils ont établi quelques villes et là-bas, sur la rive ouest du Jourdain. Si tu tues quelqu'un accidentellement, supposons que vous soyez dehors avec une hache, c'est un exemple classique, et que tous les tout à coup, la tête de hache s'envole, frappe quelqu'un et tue quelqu'un. Où cours-tu? Ah! Vous courez vers une ville de refuge. Les anciens de la ville de refuge sortent, ils parlent. Votre cas, et si vous êtes innocent, vous pouvez rester. Le vengeur du sang, maintenant qui? Est-ce un vengeur du sang? Si quelqu'un vous a tué, réalisez-vous que les membres de votre famille viendraient après vous et il y aurait un vengeur du sang de la famille du personne que tu as tué. Il viendrait après toi et te tuerait. Alors quand tu es allé en ville de refuge, la ville vous protégerait alors. Le vengeur du sang n'avait pas le droit de tuer. Toi si tu étais dans la ville de refuge. Maintenant, que se passe-t-il si vous tuez quelqu'un intentionnellement et que vous vous enfuyez vers la ville de refuge? Les anciens examinent l'affaire et s'ils disent que vous avez tué le gars, dans le but que les anciens te livrent au vengeur du sang. Donc ce n'est pas bon. Donc, vous ne voulez pas aller dans ces villes de refuge si vous n'êtes pas innocent. Mais si tu étais innocent, vous pourriez aller dans une ville de refuge et être protégé du vengeur du sang. Les villes de refuge étaient donc très importantes pour l'administration de la justice en Israël. Royauté 29, 1, 4, 3, 5, 08. Maintenant, l'institution de la royauté, au chapitre 17 du Deutéronome, nous avons le Loi des rois. Y avait-il un roi en Israël au temps de Moïse? Non. En fait, vous les gars, je viens de lire le livre des juges. Y avait-il un roi en Israël à l'époque des juges? Chacun n'a fait ce qui était juste à ses propres yeux et il y avait, quoi? Israël. Il n'y a donc pas de roi en Israël. Moïse leur dit qu'ils auront un roi. Moïse. Machine translated by Google. 12. Leur dit qu'ils auront un roi dans Deutéronome 17. Il met en place le système institutionnel. Attente pour le roi et voici ce qu'il dit, quand tu entreras dans le pays, ton Seigneur. Votre Dieu vous le donne, vous en avez pris possession et vous vous y êtes installé, et vous dites, laissez. Nous avons un roi sur nous, comme les nations qui nous entourent. À propos, est-ce exactement ce qu'ils ont dit? Je dirais, vous allez lire le livre de Samuel cette semaine. C'est exactement ce qu'ils disent, ils veulent un roi comme les autres nations qui nous entourent. Moïse a dit, c'est bon. Pour que vous ayez un roi. Vous allez avoir un roi. Assurez-vous de nommer sur vous le roi que l'Éternel, toi, Dieu, choisit. Dieu va donc être impliqué dans la sélection des le roi et il doit être de vos propres frères. Le roi doit-il être juif? Il est. Tu dois être l'un de tes propres frères. Il doit naître juif. Ne placez pas un étranger sur vous. Celui qui n'est pas un frère israélite. Le roi ne doit pas faire trois choses. Tout d'abord, Moïse dit qu'il ne devrait pas acquérir un grand nombre de chevaux. Il ne devrait pas multiplier les chevaux. Maintenant, quel est le problème? Multiplier les chevaux. Les chevaux à l'époque, c'était quoi? Instrument de guerre. Il a dit. Ne multipliez pas les chevaux car s'ils le faisaient, leur confiance serait en quoi? Leur confiance serait-elle en Dieu ou leur confiance serait-elle en leurs chevaux de guerre? Alors il dit, ne multiplie pas les chevaux. Je veux que tu aies confiance en moi, pas en la force de tes chevaux et qu'ensuite tu retournes à l'Égypte parce que l'Égypte était l'un des endroits d'où ils obtenaient leurs chevaux. Il dit, Je ne veux pas que tu retournes en Égypte. Deuxièmement, il dit, ne multipliez pas les épouses. Il ne doit pas prendre beaucoup de femmes ni son Le cœur sera égaré. Pouvez-vous me parler d'un roi d'Israël qui avait plusieurs femmes et son ton cœur s'est égaré? Salomon ou Cholomo? Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Certains disent qu'il était censé être un homme intelligent. Nous y reviendrons. En fait, j'ai passé la moitié de ma vie à étudier Salomon et ce récit avec Salomon est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'ironie et de retournement chez Salomon. L'homme le plus sage s'avère être le quoi? Oui, et donc tu as cette connexion, cette sagesse. Et la folie sont en fait au verso peuvent en fait être liées d'une certaine manière. Mais ne multipliez pas les femmes car cela égarerait votre cœur. C'est exactement ce qu'il s'est passé à Salomon avec ses 700 femmes et 300 concubines. Machine translated by Google. 13. Ensuite, la troisième chose que vous n'êtes pas censé multiplier et c'est essentiel, pensez à notre époque, ne multipliez pas l'argent et l'or. Le roi ne doit pas accumuler de gros quantités d'argent et d'or. Le roi ne doit pas utiliser sa position d'autorité pour acquérir et accumuler de l'or et de l'argent pour lui-même. Les gens devraient y utiliser leur position pour accumuler la richesse pour eux-mêmes. Moïse dit non, le roi ne devrait pas acquérir de richesse personnelle. Car où le roi trouve-t-il tout son argent et son or? L'obtient-il du peuple? C'est donc Moïse qui dit non, le roi devrait acquérir une grande quantité d'argent et d'or pour lui-même. Au fait, Salomon possédait-il beaucoup d'or et d'argent? Était-ce un cadeau de Dieu? Donc ce que vous avez avec Salomon est un genre de mélange intéressant, et nous allons. Il faudra que je regarde ça plus tard. Ainsi, pour le roi, il n'y a pas de chevaux qui se multiplient, pas d'épouses qui se multiplient, non. Multipliant l'argent et l'or personnel. Le roi ne doit pas faire ces choses. Maintenant, que doit faire le roi? C'est ce qu'il ne doit pas faire, multiplier ces trois des choses. Il y avait un commandement pour le roi. Il est dit ceci au verset 18 chapitre 17. Quand il montera sur le trône de son royaume, il devra écrire pour lui-même sur un rouleau une copie de cette loi. Le roi lui-même doit donc rédiger une copie manuscrite de la loi. Pourquoi doit-il faire que prix des prêtres et des lévites? C'est être avec lui, il doit le lire tout le temps. Jour de sa vie, afin qu'il apprenne à révérer le Seigneur son Dieu et à suivre attentivement toutes les paroles de cette loi et de ses décrets. Il doit écrire la loi pour qu'il connaisse la loi et pouvoir gouverner selon la loi. C'est donc le roi. Israël devait-il avoir un roi? Oui. Dieu a-t-il dit à travers Moïse? Eux, ils auraient un roi comme les autres nations. Oui. Devant le roi qui était leur roi. Avant le roi lui-même, Dieu était leur roi. Mais Dieu leur dit qu'ils sont va avoir un roi humain. Il ne doit pas multiplier ces trois choses épouses, chevaux. Or, il doit faire une copie de la loi. Qui serait finalement le roi humain? Israël pour toujours. Jésus sera le roi ultime d'Israël. Mais Jésus se présentera comme celui dont fils. En tant que roi d'Israël, fils de David. David sera le roi d'Israël et Jésus se présente comme le plus grand fils de David, pour ainsi dire. Jésus est le fils de David, le roi d'Israël. Donc, vous obtenez cette chose qui se passe avec Jésus. Machine translated by Google. 14. Prêtres et Lévites 35, 0936, 45. Les prêtres et les Lévites sont une autre institution que Moïse établit ici. Quel est le problème avec les prêtres et les Lévites, chapitre 18 verset 2. Il dit, ils n'auront pas héritage parmi leurs frères. Les prêtres et les Lévites n'ont pas de terre. Il n'a pas reçu de terre du Seigneur. Toutes les autres tribus obtiennent des terres, les Lévites ne doivent pas J'ai des terres, pourquoi? Quel a été leur héritage? La terre n'était pas leur héritage. Le texte ici dit que vous n'obtiendrez aucun héritage parmi leurs frères parce que le Seigneur est leur héritage. Alors, quel était l'héritage des prêtres et des lévites? Ils n'ont pas eu le. Ils ont obtenu des terres, des villes lévitiques. Le Seigneur était leur héritage. Les prêtres et les lévites sont ils. Va-t-il alors être dispersé dans tout Israël? Je crois qu'il y a 48 villes lévitiques dispersées. Dans tout Israël. Il y aura donc des prêtres et des lévites dispersés partout. Un des emplois des prêtres et des lévites sera d'enseigner la loi. Voilà donc les principales institutions que Moïse a établies sur le mont Nebo. Il ne peut pas y aller vers la terre promise, alors il met en place ses institutions à l'avance. Voyez-vous cela? Le livre Deutéronome est comme une constitution. Mettre en place les institutions qui dirigeront le gouvernement au cours des centaines et centaines d'années à venir. Moïse met cela en place et voici les institutions qu'il met en place. Là où est sa pertinence moderne 36, 4, 6, 4, 4, 14. Maintenant, c'est là que ça commence à devenir délicat. Dans Deutéronome chapitre 22, comment ramener le droit d'alors au 21e siècle? Comment prenez-vous la loi mosaïquée? L'appliquez à aujourd'hui. Comment la loi mosaïque s'applique-t-elle? Comment vas-tu depuis l'arrière alors? 1400/1200 avant JC, jusqu'à maintenant. Comment l'amener au 21e siècle après JC? Comment tu faire ce saut de 3000 ans? Comment allez-vous d'avant à aujourd'hui? Permettez-moi simplement d'en donner une illustration. Deutéronome chapitre 22, verset 5, dit ceci. Sur les femmes et les pantalons. Les femmes devraient elles porter des pantalons. Deutérium 22, verset 5 dit ceci, une femme ne doit pas porter de vêtements pour homme. Pantalon, un homme porte le pantalon dans la famille. Les pantalons sont vêtements pour homme. Les femmes ne devraient pas porter de vêtements pour homme, donc les femmes ne devraient pas porter de pantalons. Maintenant, permettez-moi de vous donner un exemple. Nous sommes revenus d'Israël et j'ai eu mon premier enseignant dans un collège biblique à Bristol, Tennessee. J'ai adoré là-bas. J'étais Machine Translated by Google. 15. Travaillant à l'école pendant la semaine, je gagnais juste 5 000 $ par an en travaillant 80 heures par semaine et ce n'est pas beaucoup d'argent. Alors que est-ce que j'ai fait? Le week-end, je ferai prêcher dans diverses églises. Ma femme étudiait l'anglais à l'université. Il y avait probablement cette grande église. 2000 églises membres et est-ce que beaucoup de grandes églises ont des écoles qui leur sont associées? Ce pasteur était donc à l'école. Le pasteur a lu ce verset de l'Écriture qui dit « Une femme ne doit pas porter de vêtements pour homme. » Il a conclu que les pantalons sont des vêtements pour homme. C'est pourquoi toutes les filles qui allaient à l'école devaient porter des jupes. Ils ne pouvaient pas porter pantalons. Ma femme y enseignait. Cela signifiait donc qu'elle devait porter une jupe tout le temps. Maintenant, ma femme, pour être honnête avec vous, la première année où je suis sorti avec elle, nous étions de retour dans le début des années 70. Toutes les filles portaient des jeans bleus. Je portais un jean bleu, je ne l'ai jamais vu dans un. Nous habiller avant de nous marier. Alors maintenant, elle doit porter une robe tous les jours pour aller travailler et elle. Elle étudiait l'anglais, donc il lui enseignait l'algèbre. Elle étudiait l'anglais d'algèbre, et elle y était professeure de gymnastique. Elle est rentrée à la maison un jour en disant que cette fille avait glissé en deuxième base. Maintenant, quel est le problème lorsque vous glissez en deuxième base et que vous êtes porté ce truc appelé jupe culotte? Cette fille s'est arraché les jambes et ma femme est venue à la maison, je secouais juste la tête en disant que cette fille avait des cicatrices sur les jambes pour le reste de sa vie. Parce qu'elle n'avait pas de pantalon sur le toboggan vers la deuxième base. Ma femme doit donc porter une robe tout le temps et nous parrainons un groupe de jeunes. Donc, faisons-nous ce que font les bons chrétiens. Nous sortons au bowling. Nous avons donc le groupe de jeunes. Au bowling, ma femme sait assez bien jouer au bowling et donc ma femme va chercher le balle, elle court là-bas et lance la balle. Elle porte une jupe. Tout d'un coup, elle « Habillez-vous comme des flip-up et c'est comme une vache sacrée l'heure du spectacle. » Nous avons 16 entre 16 et 17 ans. Les enfants ici. Taisez-vous. Vous ne voulez pas d'émission gratuite ici. Alors je la tire en quelque sorte. De côté et donne-lui ça, tu sais que tu ne peux plus jouer comme ça, c'est un conseil trop révélateur. Alors, ma femme doit sortir et jouer au bowling comme ça. Elle monte et lance la balle. J'ai gagné ce jour-là. Mais le problème, c'est que je lui ai toujours dit que je paierais $50 pour voir le. La femme du pasteur fait du ski sur neige en robe. Ne serait-ce pas drôle? Il prenait Deutéronome 22, 5 et l'appliquait à aujourd'hui. C'était ainsi qu'il. Machine translated by Google. 16. Là, il appliquait de manière un peu folle. Oui. Je pense que nous le reconnaissons tout. C'était absolument fou. Au fait, est-ce que ma femme a porté une jupe pendant toute cette année, en fait 2 ans? Elle l'a fait. Pouvons-nous nous intégrer dans des cultures différentes? C'est une culture différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Afin qu'il était très strict à ce sujet et ma femme portait donc une robe. De la même manière quand je suis allé dans un. L'église Mennonite et moi avons dû prêcher le jour de la fête des pères et ils ont dit que les Mennonites ne portaient pas de cravate parce qu'ils pensent que les cravates sont mondaines. C'est pour ça que je ne porterai pas de cravate. J'ai dû enseigner pendant 22 ans avec une cravate autour du cou. Je ne pouvais pas le supporter. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai juré de ne plus jamais en porter. Mais non, quand je suis allé à Église Mennonite, j'ai reçu la version King James parce que c'est ce qu'ils ont accepté. Donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous êtes dans des cultures différentes, lorsque vous êtes en Israël, vous mettez un kippa sur la tête. Lorsque vous êtes dans des cultures différentes, vous vous intégrez. Alors ma femme portait un s'habiller pendant 2 ans là-bas. Tu sais que ce n'est pas grave, ce sont des choses mineures mais nous le faisons. Je ne suis pas d'accord sur la façon dont le pasteur a interprété les Écritures. Nous n'étions pas d'accord avec la façon dont il a interprété l'Écriture, mais il est le pasteur de l'Église. Vous vous intégrez. Maintenant, comment passer de l'époque à aujourd'hui? Nous avons tout le sentiment que ce n'était pas bien. Laissez-moi vous lire le reste de ce verset. Alors nous disons que ce verset est stupide, mais ça ne parle pas de pantalon. Au fait, que portaient les hommes à l'époque? Faire. On sait ce que portaient les hommes et les femmes à l'époque. En sommes-nous sûrs? La réponse. C'est, dans l'image de Ben Hassani, nous avons des photos de personnes. Les femmes portaient des robes jusqu'à leurs chevilles, les gars portaient des robes ici donc les gars portaient des jupes. Alors que est-ce que ça veut dire, fait? Nous devons tous nous habiller comme eux. C'est pourquoi pour les gars, ils disent, ah. Quelqu'un a-t-il déjà entendu ceci, tu Saint-Terrain? En gros tu reprends ton vêtement. Et tu le mets dans ta ceinture parce que quand tu cours, tu ne veux pas trébucher dessus. Robe folle qu'ils portent. Vous les saignez et c'est ainsi que les hommes couraient. Devons-nous nous habiller? La façon dont ils s'habillaient. À propos, cela fait partie de la façon dont ils s'habillaient à cause du l'environnement dans lequel ils vivent. Oui. Nous vivons dans un environnement différent, vous n'avez donc pas continué à faire ces choses. De quoi est-ce que cela parle réellement? Alors vous dites que ce verset ne nous concerne pas et vous venez de le jeter. Est-ce vraiment pertinent pour nous? Laissez-moi vous lire le verset pour voir comment. Machine translated by Google. 17. Vous l'appliqueriez. Il dit que les femmes ne doivent pas porter de vêtements d'homme ni de vêtements d'homme. Portez des vêtements de femme, car l'Éternel, votre Dieu, déteste quiconque fait cela. Que est-ce que? Ça parle vraiment. Oui, est-ce assez clair? J'avais un ami dans une autre école où il enseignait et il mettait des ballons dans certaines parties de son corps et portait des bas de nylon. Puis il avait l'habitude d'aller au centre commercial et de se promener dans le centre commercial parce qu'il aimait la façon dont les gens le faisaient. Regarde-le. Était-il un peu? Oui, il l'était. Est-ce plutôt de cela que parle ce verset? À propos de, il ne s'agit pas d'opposer pantalons et jupes. Alors, comment passer de l'époque à aujourd'hui? Ce passage parle de quoi? Il devrait y avoir une différenciation entre les sexes. Je pense qu'Anna a bien compris. Quand tu as dit que les pantalons pour femmes étaient différents de ceux pour hommes, alors tu sais que tu travailles avec ça. Le vrai problème est la différenciation des sexes à laquelle il ne contribue pas. La confusion des sexes. Au fait, nous vivons en Amérique, est-ce qu'on confond tout? Oui, nous aimons plutôt ça, n'est-ce pas? Culture et droit 44, 1545, 22. C'est la plus grande question et celle-ci est vraiment délicate. Quel est l'impact de la culture sur le droit? Quand j'étais jeune, je pensais que Dieu était descendu sur le mont Sinaï et Dieu a dit, je suis Dieu, voici ma loi wam bam. C'est ma loi, c'est comme ça que je veux. C'est fait. C'est la loi parfaite de Dieu et c'est tout. Ignorant totalement la culture, dit Dieu. C'est ainsi que je veux que ce monde fonctionne. Dieu, dans sa loi, prend-il en compte la culture. Donc, ce que je veux vous suggérer ici, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interactivité entre culture et droit. Nous allons juste en montrer quelques exemples. Le roi devait impliquer lui-même pour rédiger la loi et en faire des copies. Avons-nous un roi aujourd'hui? Non. Nous ne le faisons pas. Nous avons rejeté Georges, nous n'avons pas de roi et le roi devait donc écrire le loi. Et il censait rédiger une loi et en faire une copie manuscrite pour lui-même. Maintenant, il ne le fait pas. Il faut qu'il l'ait sur son BlackBerry, son iPhone ou son iPad. Jésus est la loi 45, 2, 3, 5, 1, 30. Quelle est la vision du Christ sur la loi? Je veux donc examiner d'abord le point de vue du Christ sur loi, puis comparer cela avec le point de vue de Paul sur la loi et revenir à la question de droit et culture. Qu'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 5 verset 17? Jésus dit ceci, faites. Machine translated by Google. 18. Je ne pense pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir eux, mais à quoi? Remplissez-les. Je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour la respecter. Je vous dis la vérité jusqu'à ce que le ciel et la terre ne disparaissent pas la moindre lettre, qui est là. Yod, I, lettre. C'est une demi-lettre. Ou le moindre trait de plume, un trait ou un titre est ce que. Personne ne se souvient de l'époque où la version King James disait, pas un iota ni un titre ne passera de la loi. Un titre est un empattement. Vous connaissez les polices avec ou sans empattement. Ariel est sans empattement. Alors qu'avec le Times New Roman, vous avez vu les petits empattements qui se détachent du lettre sur les T et les P, ils porteront les titres ou les empattements. Serif est ce qui est appelé un titre. C'est juste un petit bruit d'aile qui se détache des lettres. Il dit que ce n'est pas la plus petite lettre ou un tintement d'aile disparaîtra jusqu'à ce que la loi soit remplie. Comment Jésus se défend-il contre Satan? Dans Matthieu chapitre 4, juste en arrière. Page ici, Jésus est tenté dans le désert. Il jeûne depuis 40 jours et 40 nuits. La nature sauvage. qui vient le défier. Satan vient vers lui et lui dit, Eh, Jésus, tu jeûnes depuis 40 jours, tu as faim Jésus. Tu as de la pierre ici. Jésus, pourquoi ne transformes-tu pas ces pierres en pain? Et Jésus dit-il, Satan, je sais qui tu es, regarde ça. Je vais cligner des yeux et tes molécules vont partir. Comme sur chaque galaxie. Je suis juste, bam et tu pars d'ici. Est-ce qu'il? Non, il ne l'a pas fait. Que? Qu'a dit Jésus, transformer ces pierres en pain. Jésus a dit, quoi? L'homme ne vivait de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que est-ce que Jésus faire? Jésus cite le Deutéronome. Transformer ces pierres en pain, a dit Satan. Jésus a répondu, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il cite Deutéronome 4 pour Deutéronome 8 et cette section-là. Satan emmène Jésus au sommet du temple, au point le plus élevé de le temple et dit, Jésus, jette-toi à terre parce que, et Satan cite et il. Écriture. Satan cite en fait les Écritures et dit, Jésus, jette-toi à terre. Ça dit. Dans le livre des psaumes que ses anges vous porteront. Jésus se tourne vers Satan et dit non. Je ne vais pas me jeter à terre. Que ne feras-tu pas au Seigneur ton Dieu? Toi. Je ne tenterai pas l'Éternel, ton Dieu. D'où ça vient? Le livre de Deutéronome. Il cite encore une fois le livre du Deutéronome disant, vous ne tenterez pas. Machine translated by Google. 19. Le Seigneur votre Dieu. Finalement, Satan l'emmène jusqu'à la plus haute montagne, peut-être le mont Hermon ou Tambourin. Il lui montre tous les royaumes du monde et lui dit, incline-toi et adore. Moi et je vous donnerai tous ces royaumes. Jésus dit quoi? Tu adoreras le Seigneur. Votre Dieu et lui seul devriez-vous le servir. Il cite le chapitre 5 du Deutéronome. 10 commandements. Les trois fois où Jésus va se défendre contre Satan. Il cite le Deutéronome pour se défendre. Le Christ utilise les Écritures pour se défendre. Contre Satan. Question, devons-nous utiliser les Écritures pour nous défendre contre Satan? Cela semble logique. Jésus utilise le Deutéronome à trois reprises dans la tentation du Christ pour se défendre. Jésus avait-il une très haute opinion de la loi? Lorsqu'on demanda à Jésus, quelle est la chose la plus importante de la loi? Qu'a-t-il dit? Aime le Seigneur ton Dieu de tout votre cœur. Et puis, quelle était la suite? Aime ton prochain comme toi-même. Voici les deux grands commandements. D'où viennent-ils? Aime le Seigneur ton Dieu, c'est le Shema. Écoute, Israël. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, Deutéronome 6.4. D'où vient l'autre? Est-ce que quelqu'un se souvient de celui-ci, tu aimeras ton voisin comme toi-même? Vous l'avez mémorisé. Je pensais que je te l'avais fait mémoriser. C'est Lévitique chapitre 19, aime ton prochain comme toi-même. Cela vient du Lévitique. Donc, les plus grands commandements du Christ proviennent du Lévitique et du Deutéronome. Sur la permanence de la loi, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais quoi? La loi, pas un iota ni un titre ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors la loi est permanente. Jésus l'affirme également. Maintenant, Jésus critique-t-il la loi? Certains regardent le sermon sur la montagne. Ici et le sermon sur la montagne peuvent être interprétés de différentes manières. Il y a toute la littérature sur le sermon de la montagne, juste des centaines de façons différentes et merveilleuses de compréhension et le sermon sur la montagne. Mais une des façons de voir les choses est Jésus dit, vous avez entendu dire autrefois, tu ne tueras pas, mais je vous le dis. Quiconque est en colère contre son frère sans raison a déjà commis un meurtre dans son cœur. Alors, que fait Jésus? Jésus prend la loi et l'enfonce dans le cœur. Jésus prend. Machine translated by Google. 20. La loi et l'applique au cœur. Son objection ne concerne pas la loi elle-même, mais son objection est à la mauvaise interprétation pharisienne de la loi. Il l'enfonce dans le cœur. Alors il dit. Quoi? Vous avez entendu dire que tu ne commettras pas d'adultère. Jésus dit, quiconque a regardé une femme avec convoitise et a déjà commis un adultère dans son cœur. Jésus aussi affirmait la loi en l'enfonçant dans le cœur et en disant que les mobiles comptent ici. Il en va de même. Jésus a-t-il une très haute opinion de la loi? Si une personne est chrétienne, vas-tu avoir une haute opinion de la loi? Si vous êtes un disciple du Christ, Jésus avait une très haute opinion de la loi. C'est mon point ici. Paul et la loi 51, 3, 1, 5, 7, 18. Et maintenant, qu'en est-il de Paul? Paul, si vous consultez les chapitres de Galates, Paul évoque ce contraste entre la loi et l'évangile dans Galates chapitre 5, verset 4. Je veux juste lire ce verset. Pour toi. Paul est-il si positif sur la loi? Paul dit, vous qui cherchez à être justifié par la loi a été éloigné de Christ. Laissez-moi le relire. Toi qui essaies pour être justifié par la loi ont été aliénés du Christ. En d'autres termes, si vous essayez de utiliser la loi pour être justifié, alors vous êtes aliéné de Christ. Il y a donc cette tension entre le Christ et la loi. Si vous utilisez la loi de cette façon, vous êtes tombé loin de la grâce. C'est donc vraiment un point négatif de la loi que la loi vous enlève du Christ. Donc Paul dans le livre Galates va avoir des problèmes avec la loi. Maintenant, vous dites que Paul est négatif à l'égard de la loi. Et la réponse est, non, car si vous revenons à Romains chapitre 7, verset 12, Paul dit, la loi est sainte, juste et bonne. Ainsi, Paul dans Romains dit que, la loi est sainte, juste et bonne, mais dans Galates il leur dit que s'ils utilisent la loi pour gagner leur salut de cette façon, alors la grâce ne sert à rien. Eux. En fait, cela les a éloignés de Christ. Il y a donc cette tension chez Paul. Terme de la loi sainte, juste et bonne Rome 7 et cette loi dont il parle dans Galates. Il obtient un avis assez négatif et souligne le caractère condamnatoire de la loi en Galates chapitre 3. Permettez-moi de tourner la page ici jusqu'à 3.10. Il est dit, tous ceux qui comptent et qui observent la loi sont sous une malédiction, car il est écrit que quiconque ne la respecte pas est maudit. Continuez à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. De toute évidence, personne n'est justifié devant Dieu par la loi. Pourquoi? Personne n'est justifié par la loi parce que les justes veulent. Machine translated by Google. 21. Vivre, par quoi? Par la foi. Je demande, est-ce que quelqu'un sait d'où vient ce passage? Il est dit, les justes vivront par la foi. C'est un concept assez important dans la Bible. Les justes vivront par la foi. C'est une citation de l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un connaît le livre d'Habacuc? Effectivement, c'est dans le livre d'Habacuc. Habacuc est un merveilleux petit livre, si jamais vous avez du temps, il est court, environ 3 chapitres. C'est livre merveilleux et dans ce livre il est dit, les justes vivront par la foi. Paul dit que la loi n'a jamais justifié personne. Laissez-moi lire que Romains 4.3, contraste. Ici avec Romains 4.3. Paul dit ceci, que dit l'Écriture? Abraham a respecté la loi. Il a été circoncis et Dieu l'a alors considéré comme juste. Et ce que est ce qui est dit? Il est dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, pourquoi Paul est-il brillant? Paul est absolument génial ici. Pourquoi utilise-t-il Abraham absolument génial? Abraham est-il avant ou après la loi? Abraham a des centaines des années avant la loi. Abraham est-il le grand homme de la circoncision? Abraham était-il le un avec l'alliance instituée par sa circoncision et sa célébration? Maintenant, Abraham introduit ensuite la circoncision, c'est important. Abraham a-t-il été sauvé en observant la loi ou en étant circoncis? Non. Les Écritures nous disent clairement qu'Abraham a été justifié par quoi? Permettez-moi de relire cela, c'est vraiment important. Abraham a cru Dieu et c'était compté pour justice. Alors Paul retourne à Abraham parce que tout le monde, les Juifs prétendent-ils qu'Abraham est leur père? C'est comme notre père Abraham. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne à Abraham pour précéder Moïse et dit qu'Abraham a été sauvé par la foi, donc vous aussi êtes sauvés par la foi et non en observant la loi. La loi est censée montrer, et c'est là le problème fondamental, que la loi est censée montrer à quel point nous sommes bons. La loi est censée nous montrer quoi? Notre péché. Ce qui s'est passé, c'est le. Les pharisiens ont pris la loi et l'ont-ils renversée. La loi a été utilisée pour montrer aux autres combien ils ont été bons, pour ne pas leur montrer leur péché. Ce que Paul dit c'est, non, non, tu es mal comprendre tout cela. Le but de la loi était de nous montrer notre péché, pas de nous montrer comment nous sommes bien. La loi nous montre nos péchés pour que nous nous tournions vers qui? Christ, comme sauveur. C'est la fonction de la loi. Dieu nous a choisis, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'un sauveur et c'est le fondement de la loi. La loi a une fonction pédagogique. La loi est un machine translated by Google. 22. Mentor, la loi est un maître d'école, je pense que c'est ainsi que le dit la version King James. La loi est un maître d'école qui nous amène au Christ. La loi nous amène à Christ parce que nous réalisons notre péché et nous réalisons que nous avons besoin d'un sauveur. Donc la loi nous a mis en place pour nous amener au Christ pour nous montrer nos propres défauts, pour nous montrer notre propre péché afin que nous nous tournions vers le Christ. Donc, c'est la fonction de la loi. La fonction de la loi est de nous montrer notre péché, pas de nous montrer que nous sommes justes. Droit civil 57, 1960, 33. Que est-ce qui tient encore? Laissez-moi vous demander de conceptualiser la loi comme ceci, c'est ce que je a été enseigné en grandissant. Je pense que c'est utile et vous me verrez le critiquer dans une minute mais réfléchissez simplement à cela. Les gens prennent comme loi les 5 livres de Moïse et disent certains. Certaines parties de la loi de Moïse sont des lois civiles. Ce sont des lois civiles, ce sont des lois pour le gouvernement. Avez-vous besoin de loi? Le gouvernement a-t-il besoin de loi? Un gouvernement a besoin de loi, à moins que vous ne soyez anarchiste ou quelque chose du genre. Par exemple, l'une des lois d'Israël était que si vous aviez une maison et que vous avez un toit plat, la plupart de leurs maisons ont un toit plat, il faut mettre un parapet, un petit mur autour du toit de votre maison. Maintenant, pourquoi ferais-tu ça? Oui, donc si une personne est debout là, il ne marche pas, tombe de votre toit et se blesse. Alors tu étais requis par la loi de mettre un parapet autour du toit de votre maison. Au fait, est-ce que tu vois que ce serait une exigence de sécurité qu'une nation pourrait vouloir pour que les gens ne soient pas blessés? Et ceci tiré par les cheveux maintenant. Combien d'entre vous ont installé un parapet autour de leur toit? Maintenant, vous dites que nous vivons en Nouvelle-Angleterre et que tous nos toits sont pentus. Pourquoi sont-ils ainsi raides? La pluie tombe et quoi de pire que la pluie parfois? La neige va hors de votre toit. Si vous avez un toit plat en Nouvelle-Angleterre, vous avez un problème, il suffit de regarder. Salle de givre. Donc ce que vous voulez est raide. Avons-nous besoin de parapets autour de nos toits? Aucun d'eux. Vous montez pour faire une médiation sur votre toit, n'est-ce pas? En fait, j'étais sur mon toit, j'ai un toit vraiment raide, il fait environ 50 pieds là-haut et je me suis assis juste au sommet du pic. J'étais en train de clouer des bardeaux après que mes simples aient explosé. J'ai donc dû le préciser. À l'envers. Il n'y avait personne pour m'aider et j'ai réalisé que si je tombais, c'était l'un des pires. Les rares fois dans ma vie où je n'ai généralement pas le vertige. J'ai réalisé que mes fils. Machine translated by Google. 23. Il n'y en a pas, donc si je tombais, il n'y avait personne pour m'aider. C'était un peu différent. Chose pour moi à cet âge de ma vie. Je réfléchis à deux fois aux hauteurs maintenant, ce qui est dégoûtant. Maintenant, le droit civil, permettez-moi maintenant d'y revenir. J'ai un voisin, qu'en est-il de ça? Parapet autour du toit. Nous avons dit que nous n'avions pas de toit plat, ils sont tout raides maintenant. Quoi? À propos de mon voisin qui a une piscine. Doit-il installer une clôture autour de son jardin pour protéger pour que les enfants ne marchent pas et ne tombent pas dans la piscine? Et ce, à peu près la même loi pour protéger les gens du mal. En tant que propriétaire, êtes-vous responsable de vous assurer que les gens ne vous blessez pas sur votre propriété? Alors ils ont mis une clôture autour des piscines aujourd'hui et c'est très similaire à ce même type de loi. Il existe donc des lois civiles. Il existe des lois civiles pour gouvernement. Maintenant, question, êtes-vous le gouvernement? Avez-vous suivi ces lois? Nous ne sommes pas vraiment le gouvernement qu'était Israël. Loi cérémoniale 60, 3, 4, 6, 1, 48. Les Juifs avaient aussi des lois cérémonielles. Les lois cérémoniales, c'est quoi? Les lois du prêtres et lévites. C'est ainsi qu'on fait des sacrifices et qu'on fait des fêtes. Quel était le mot que nous utilisions pour les rituels? Nous utiliserions en anglais ce mot, rituel. Les rituels sont prescrits par la loi. Ils précisent les rituels que suivent les prêtres. Quel était le autre mot que nous utilisions dans les cercles de l'Ancien Testament et qui est un mot très important à connaître? Comment appelle-t-on le cérémonial ou le rituel? Le culte. Dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous que nous utilisons ce mot, secte. Le culte, ce sont ces actes extérieurs de culte, les rituels que vous traversez et que l'on peut appeler la loi cérémonielle. Maintenant, demandez-vous combien d'entre vous ont sacrifié quelque chose ces derniers temps. Je veux dire un vrai sacrifice de moutons et de chèvres. Et ce qu'on applique encore ces lois cérémonielles. Sommes-nous des prêtres? Et les lévites? Le temple a-t-il disparu? Le temple a disparu, l'autel a disparu, donc nous ne le faisons pas. Ces lois cérémonielles. Les lois civiles sont donc des lois gouvernementales et nous ne sommes pas vraiment un gouvernement ou une nation comme l'était Israël. Le cérémonial concerne les prêtres et leurs sacrifices. Loi morale 61, 4, 9, 6, 3, 0, 1. Alors sur quoi devons-nous nous concentrer? Dans l'Ancien Testament, nous nous concentrons sur la loi morale. Maintenant, Machine translated by Google. 24. Y a-t-il certaines parties de la loi de l'Ancien Testament qui sont morales comme, tu ne devras pas. Tu ne voleras pas et tu ne mentiras pas et ce que ces préceptes moraux, tu devrais. Ne tue pas, tu ne dois pas commettre d'adultère, ce genre de choses. Ce qui se passe ici, c'est que beaucoup de gens divisent la loi en trois catégories. Et ce, la loi civile, cette loi est elle cérémoniale ou cette loi est elle morale. Alors quand la suggestion est nous ne respectez pas nécessairement ces deux premiers mais la troisième, la loi morale de Dieu, aimez-le. Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même nous gardons la morale. Loi. C'est donc ce qui est important ici. Nous segmentons donc la loi, puis comment la transférons-nous? Nous transférons sur la seule partie morale de cette loi. Est-ce que cela a du sens alors? Est-ce que cela fait la loi? Plus facile à gérer. Nous avons le droit civil qui s'adresse aux nations, mais nous ne sommes pas des nations. Loi cérémoniale pour les prêtres, mais nous ne sommes pas prêtres. Et la loi morale c'est ce que nous suivre. Critique de la distinction entre droit civil, cérémonial et droit moral 63, 0265, 20. Maintenant, permettez-moi de critiquer cela un peu. Mon problème avec ça, c'est comment fais-tu déterminer si une loi est une loi civile, cérémonielle ou morale. Parfois sont les des lois cérémonielles liées aux lois morales. Est-ce que le livre de la loi, Moïse les cinq premiers livres de la Bible, nous parviennent-ils comme un tout organique? Cela nous vient de manière organique. Connecté. Vous ne pouvez tout simplement pas arracher des choses et les classer dans des catégories comme celle-là. Lorsque vous commencez à le déchirer et dites bien que ceci est civil, ceci est cérémonial et ceci est moral. Tu es décortiqué le droit. Vous ne pouvez pas faire ça. La chose est morale. C'est immoral de faire cela. On ne peut pas briser les choses comme ça. Est-ce que mettre un parapet autour de votre mur est un question morale? Oui, en fait, cela fait autant partie de votre responsabilité que celui de celui qui possède le maison. C'est en partie civil, mais aussi en partie morale. Donc ce que je suggère, c'est que cette catégorisation viole ici la connexion organique, l'unité organique, la interaction avec l'écriture avec elle-même. Bien que j'aime ces catégories et que je pense qu'elles sont utiles, mais je pense qu'il faut être prudent lorsqu'il s'agit de disséquer et de disséquer la loi. Alors être honnêtement avec vous, j'aime une partie de cette idée, mais vous devez être prudent et reculé. Certains plutôt que de voir le civil, le cérémonial et le moral comme trois conteneurs distincts. Machine translated by Google. 25. Ignorant leur unité organique. Voici maintenant la meilleure façon, à mon avis, d'aborder cette question de droit. Quel est le principe universel sous-jacent? Par exemple, prendre soin des pauvres. Le soin des pauvres est-il dans l'Ancien Testament est-il bon? Le soin apporté aux pauvres dans le Nouveau Testament est-il une bonne chose? Oui. Et ainsi, vous obtenez ces principes plus universels. Aime Dieu, sois saint parce que moi, l'Éternel, ton Dieu est saint, s'agit-il de principes universels? Alors ce que vous faites, c'est que vous regardez, ce sont ceux-là. Principes universels et transculturels. Ils vont au-delà de la culture et travaillent dans quelle que soit la culture et chaque culture le manifestera différemment mais c'est fondamentalement le principe sous-jacent qui fonctionne dans toutes les cultures. Reparticularisation culturelle 65, 2166, 52. Reparticularisation culturelle que est ce que j'entends par reparticularisation culturelle? Avons-nous des difficultés avec le culte de Baal aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a vraiment du mal avec Baal? Toi? Je sais que dans l'Ancien Testament, il n'était pas censé adorer Baal. Nous ne savons même pas qui est Baal maintenant. Nous ne faisons plus de sacrifices de moutons, de chèvres ou de céréales. Est-ce que nous faire du pur et de l'impur? Non, nous ne faisons plus vraiment ça. Leurs autels devaient-ils être construits d'une manière spéciale? Oui, les autels juifs étaient censés être construits en pierre brute. Contraste avec les autels cananéens qui étaient faits de pierre taillée. Nous ne construisons pas d'autels. Plus donc ces règles ne s'appliquent pas vraiment à nous. Mais alors vous devez vous demander, pouvez-vous aller au-delà des particularités culturelles pour trouver un principe sous-jacent universel? Pouvez-vous enlever le détail culturel et trouver le principe universel sous-jacent? C'est le cas du culte de Baal. Est-ce que cela devrait? Que faire avec l'idolâtrie et quelle que soit la forme qui prend place dans votre culture? Des sacrifices peuvent être compris comme Jésus-Christ mourant pour nos péchés et réalisant et confessant nos péchés. Et alors? Je suggère que chaque loi de l'Ancien Testament viendra d'une culture. Vous devez tenir compte de certaines choses, les particularités culturelles et examiner les fondements sous-jacents. Principe. V. Jésus, la loi et la culture 66, 5, 3, 7, 2, 24. Maintenant, permettez-moi d'en dire un peu plus, la clé est alors ce principe sous-jacent. Plutôt que le particulier culturel. Jésus en donne un modèle, je pense, dans le sermon sur Machine Translated by Google. 26. La montagne. Jésus dit que si vous êtes en colère contre votre frère dans votre cœur, ne savez-vous pas? Vous avez déjà commis un meurtre dans votre cœur. Donc, Jésus prend essentiellement la loi et le pousse dans le cœur. Donc, ce que je suggère, c'est que nous devrions travailler avec le principe qui sous-tend les particularités culturelles. Maintenant, je veux faire un pas de plus et ce prochain pas, en fait j'en ai découvert quelques-uns. Il y a des années et c'est difficile. Dieu s'est adapté à la culture lorsqu'il a donné la loi. En d'autres termes, je pensais au départ que lorsqu'il descendait au mont Sinaï, il avait donné sa loi parfaite selon laquelle c'est ainsi que les choses sont censées se passer au paradis. C'est parfait et ça. C'est la façon dont il est censé fonctionner. Mais ensuite je suis tombé sur une déclaration dans le Nouveau Testament. Que Jésus fait dans Matthieu chapitre 19 verset 8. Laissez-moi juste vous lire ceci, je pense que c'est transformer ma façon de voir le droit. La question porte sur le divorce et les pharisiens disent. Pourquoi alors, demandèrent-ils, Moïse a-t-il ordonné qu'un homme donne à sa femme un certificat de divorcé et la renvoyer? Moïse a-t-il autorisé le divorce? Deutéronome chapitre 24. Moïse autorise un homme à divorcer de sa femme. La question est ce parfait. Et ce imparfait. Monde. Moïse autorise le divorce. Que dit Dieu à propos du divorce dans Malachie? Dieu dit, je déteste le divorce. Et ce assez clair. Il dit, je déteste le divorce. C'est assez clair. Ce que Dieu en pense. Il déteste ça. Vous dites bien que si Dieu déteste cela dans Malachie, pourquoi Moïse le permet-il dans le chapitre 24 de Deutéronome? Jésus nous dit ici le pourquoi. Et ce que Jésus. Tu sais le pourquoi de la loi. Oui, Jésus était là. Alors Jésus dit ceci, Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, pourquoi? Parce que vous aviez le cœur dur. Et ce que Dieu adaptait sa loi à cause de la dureté du cœur de ces gens. Oui. Il ne vient pas. Et dites que voici cette loi parfaite, vous devez le faire. Il dit, non, ça. Une loi parfaite ne fonctionnera pas avec ces gens parce qu'ils sont tellement corrompus. Maintenant, que est-ce que ça veut dire? Il y a de très nombreuses années, j'ai enseigné ce passage et j'étais en un petit collège du Midwest appelé Grace College. J'ai parcouru ce passage et j'ai dit. Savez-vous ce que Jésus veut dire ici? C'est que les hommes sont tellement corrompus si vous ne pouvez pas divorcer. Femmes, que feraient les hommes à leurs femmes? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous avons promis et donc que feraient les hommes s'ils ne peuvent pas divorcer de leur femme, mais qu'ils détestent leur femme? Et ils veulent se débarrasser d'elle, alors que feraient-ils? Ils tueraient leur femme. Ils. Machine Translated by Google. 27. Tuer leur femme pour mettre fin au mariage. Alors je m'en vais et je parle de ça même dans. En Amérique, est-ce que certains hommes tuent leur femme pour se débarrasser d'elles en Amérique? Alors je m'en vais. Comme ça et cette dame vient me voir après probablement une femme de 35 ans. S'approche de moi et elle me dit, qui te l'a dit? Vous n'êtes pas censé savoir. Personne. Ici, c'est censé savoir. Comment le saviez-vous? Elle devient paranoïaque et suspect. J'ai dit, madame, je viens d'inventer cet exemple de ce type qui tue sa femme. Je ne faisais référence à rien de particulier. Elle dit, non, non, tu parlais de moi. Vous venez d'exposer toute ma situation. Qui te l'a dit? En gros, ce qui s'était passé était. Cette dame venait du Colorado, c'était il y a tellement d'années que ça n'a plus d'importance maintenant, elle était. Du Colorado. Son mari s'en est pris à elle. J'ai oublié ce que c'était, 10 000 dollars ou. Peu importe. Elle a découvert que son mari avait payé quelqu'un pour la tuer. Elle a découvert. À ce sujet, alors elle a emmené les enfants et s'est enfuie dans l'Indiana. Nous avions ces endroits, je pense qu'ils sont appelés refuges, où les femmes peuvent se rendre avec leur famille et être protégées. Alors elle s'est cachée dans une maison sûre et personne n'était censé savoir où elle vivait ni ce qui s'était passé. Elle suivait un cours dans une université pour tenter de poursuivre ses études. Son mari athée, il payait pour l'ATL tuée. Oui, et elle fuyait cela. Alors je dis que même jusqu'à ce jour, tu prends ça. Jésus dit, à cause de la dureté de leur cœur. Dieu a-t-il adapté sa loi? Parce que le cœur de ces gens était si dur. Il ne voulait pas que ces femmes soient tuées. Et alors il a dit, eh, d'accord, tu peux divorcer, ce que je déteste. Maintenant, selon la loi, c'est le divorce. La volonté parfaite de Dieu. Dieu dit qu'il déteste le divorce, mais qu'il permettrait ce qu'il détestait parce qu'il ne voulait pas que ces gens soient tués. Donc ce que je dis, c'est que Dieu s'est adapté à la culture. Donc vous devez être prudent si vous dites simplement que Dieu est descendu et a donné son loi parfaite, c'est ainsi que cela est censé se passer au ciel. Non, Dieu a dit que ces gens sont. Je dois m'adapter à ces pécheurs, sinon ils vont s'entretuer. Voyez-vous comment ça change votre façon de voir la loi. Parfois, vous avez une loi sur le divorce à cause du dureté de ton cœur. W. Continuité canonique ou conflit 72-2576-22. Voici une autre chose avec laquelle je travaille, la continuité canonique ou le conflit canonique. Faire. Machine Translated by Google. 28. Certaines parties de la Bible disent que je peux manger du homard même s'il est impur. Poisson, chat, propre ou impur. Impur. Les Juifs avaient-ils des distinctions vraiment nettes entre propre et impur? Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, dans une vision, dit-il à Pierre de se lever. Et mange. Tout est propre. Pierre dit, non, Jésus, je ne peux pas faire ça parce que ma bouche n'ai jamais rien mangé d'impur, dans Actes chapitre 15. Et Dieu dit, lève-toi et mange. Appelle impur ce que j'appelle pur point. On dit à Pétère de manger tous ces trucs non cachères dans le Nouveau Testament parce que Dieu essaie de montrer que les lois cachères sont maintenant adoptées. Si tu es chrétien, dois-tu manger cachère? La réponse est non. Actes chapitre 15 nous dit qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas obligés de manger cachère. Donc une partie de la loi est modifiée et il y a ces affrontements canoniques. L'Ancien Testament procédait ainsi et dans le Nouveau Testament, nous n'allons pas procéder ainsi et il y a donc un affrontement entre eux. Quand vous voyez ces affrontements, vous savez quoi? Est-ce que cela fait partie de la loi culturelle? Était-ce pour cette culture et pas pour notre culture? Alors quand tu vois le choc, alors tu peux voir ces divergences de culture. La culture a changé et la loi doit donc être modifiée. Ce que je dirais, c'est que la loi ne disparaît pas. Quelle était la fonction de cette loi? La fonction de la loi concernant la consommation d'aliments cachers était qu'une culture ethnique. Comment devrais-je dire un marqueur pour le peuple juif qu'il faisait partie du peuple juif? Communauté. Ce qui se passe actuellement n'est pas la disparition du peuple juif, c'est en fait, parce que maintenant les gentils sont inclus. En d'autres termes, vous ne. Nous n'avons plus besoin de ces identifiants culturels et ethniques parce que l'Église, c'est désormais le monde entier. Il ne s'agit donc pas tant de disparaître que de s'étendre et d'être détruit. En expansion dans le. Dans un sens, il s'accomplit en étant élargi. Pas comme tu dis, décédé. Signifiait que la loi serait violée. La loi est toujours bonne. Il a rempli son objectif. Son objectif était d'identifier le peuple juif et maintenant il doit céder parce que cette exclusivité ethnique cède. Ce n'est pas en train de disparaître. Donc je dis que ce serait se développer et passer à de plus grandes choses. Il est réalisé de manière plus globale, d'une manière plus expansive. Ce n'est donc pas comme si c'était grave maintenant, non, non. Il avait sa place, il avait ça. Du temps et maintenant, en fait, il a toujours sa place et son heure, mais en fait, il est en train d'exploser. Machine translated by Google. 29. Maintenant, cela devient plus complet. La loi, il y a certaines choses qui changent, comme les lois alimentaires qui sont très claires. Parce que les actes le disent très clairement. Nous ne sommes pas obligés de manger cachère. Il y a donc une continuité et il y a une discontinuité. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a continuité, mais il existe également certains aspects de discontinuité. La discontinuité sera souvent. Soyez dans cet accomplissement en vue du plus grand avenir. Donc ici c'était plus petit et puis une fois. Nous entrons dans l'Église, elle s'étendra et deviendra plus complète. X la loi, bon et mauvais usage 76, 2, 3, 7, 8, 10. La loi est-elle bonne ou mauvaise? Eh bien, si la loi vous conduit au légalisme, elle est mauvaise. Si. Il trouve la sécurité dans la performance, alors la loi est mauvaise parce que vous obtenez la sécurité dans le. La loi, pas dans votre foi en Christ. L'extériorisation de la religion si l'on respecte la loi est. La loi leur donne alors des marqueurs externes indiquant que vous êtes religieux parce que vous en avez. Des marqueurs externes qui, encore une fois, ne relèvent pas de la loi. Si la loi t'amène à ressentir tellement bien dans ta peau que tu commences à condamner les autres parce que les autres ne gardent pas le. La loi et vous respectez la loi et vous commencez à mépriser les autres. Les gens, ce n'est pas non plus le rôle de la loi. La loi peut donc être mauvaise en ce sens. Il peut vous amener à avoir le sentiment que je suis meilleur que les autres et vous conduire en grande partie à la fierté. Ne vaudrait-il pas mieux dire qu'elle est utilisée à mauvais escient dans ces situations parce que la loi est toujours raison? Oui, je veux le faire de cette façon, alors nous le ferons de cette façon. Alors la loi peut conduire. Certains sont fiers du fait que la personne prend la loi, ce qui les conduit à la fierté et à gagner de l'argent. Son salut. Une personne peut accepter la loi et dire que si elle la respecte, elle peut gagner sa vie. Salut. Si la personne croit mériter son salut, dépend-elle de vous. La grâce. La loi peut donc avoir ses diverses fonctions et même le terme « loi » est utilisé dans de nombreuses manières différentes. Voici quelques façons négatives dont la loi peut être mal interprétée et mal utilisée. Y abus de la grâce 78, 1180, 23. Et maintenant, qu'en est-il de la grâce? Vous avez dit que vous parlez très haut de la grâce. Qu'en est-il de la grâce? La grâce est-elle bonne ou mauvaise? La grâce peut conduire à la licence. Une personne peut dire, Dieu fera. Machine translated by Google. 30. Pardonne-moi pour que je puisse sortir et faire ces mauvaises choses que je sais que je ne devrais pas faire en 10 ans. Dieu me pardonnera. La grâce finit donc par être une incitation au péché. Parce que tu penses que Dieu te pardonnera. Paul dit que la grâce est bonne, mais si la grâce vous conduit péché, à Dieu ne plaise. Paul dit ça. La mentalité selon laquelle je peux tout faire et je le serai. Pardonner peut être un problème. Si une personne pense que je peux tout faire et je le ferai. Pardonnez, alors la grâce vous conduit sur la mauvaise voie. Donc la grâce a ce côté négatif aussi. C'est le plus important, la valorisation du péché. C'est en fait un gros problème, je pense, dans notre culture. Notre culture pousse à la grâce. Cela a conduit à une déconnexion entre l'acte et conséquence. C'est l'une des choses les plus importantes dans notre culture qui retient de nombreux jeunes les gens dans la folie plutôt que de leur permettre d'avancer vers la sagesse. Le déconnexion avec l'acte et les conséquences parce qu'ils pensent qu'ils peuvent agir sans conséquences. Le problème est qu'il y a des conséquences et que le péché est donc dévalorisé. Je pense qu'on a toujours une seconde chance. Donc, dans ce genre de pensée, la grâce est mauvaise. La prochaine fois que nous aborderons cette section, nous parlerons de certaines lois qui sont très difficiles. L'une de ces lois sera celle de la guerre. Nous voulons donc parler de certains des lois qui nous secouent les os et nous nous attaquerons à ces lois sévères la prochaine fois. Prends soin de toi. Rendez-vous sur mardi. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans son ouvrage Histoire, littérature et théologie de l'Ancien Testament. Cours, leçon 17 sur le livre du Deutéronome, les institutions d'Israël et les différents. Compréhension de la notion de droit. Transcrit par Sam Mazon. Brut édité par Ted Hildebrandt 2.